RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et si on commençait par une idée reçue, celle de dire que l'écologie, c'est un truc de riche. Alors on va justement se demander ce matin pourquoi l'écologie a autant de mal à trouver sa place chez les plus modestes de nos concitoyens, que ce soit dans les quartiers populaires ou en zone rurale, et surtout comment faire pour que fin du monde et fin du mois ne s'opposent pas, et donc comment permettre à chacun de bien vivre tout en préservant notre avenir commun. Et vous entendrez d'ailleurs dans la seconde partie de l'émission que des associations agissent sur le terrain pour conjuguer ce qu'on appelle justice sociale et urgence écologique. On prendra l'exemple du Secours catholique et de Magdala à 10h. Soyez les bienvenus pour témoigner et réagir. Et vous alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'écologie c'est un truc de riche ou de bobo pour vous? Et à votre avis, peut-on répondre en même temps aux préoccupations de fin de mois et de fin du monde? Est-ce que vous pensez que les personnes les plus modestes ne s'intéressent pas à l'écologie? Et qu'est-ce qui coince en fait? On vous attend. Venez partager vos réflexions avec nous au 04 72 38 20 23. C'est Catherine au standard. 04 72 38 20 23. Vos messages par mail à l'adresse direct@rcf.fr et toujours dans le groupe Facebook Je pense, donc j'agis.
Jusqu'à 11h, Je pense, donc j'agis. Sur RCF.
Bonjour Anne-Claire Léo.
Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes la rédactrice en chef écologie RCF et donc ce matin on se demande si l'écologie c'est une affaire de riches.
Oui, on peut déjà répondre clairement non, hein, puisque les premières victimes de la crise écologique sont les plus pauvres, que ce soit en France ou ailleurs. Un exemple, les habitants et habitantes des quartiers populaires sont davantage touchés par les grosses chaleurs, parce qu'en général il y a peu de végétation dans leurs quartiers très bétonnés et que leurs logements sont souvent assez mal isolés. Les plus modestes sont aussi touchés par la précarité énergétique, et cela, ça vaut aussi dans le monde rural, et on pourrait citer des tas d'autres exemples d'inégalités face aux conséquences de la crise écologique. Les moins riches de nos concitoyens sont donc clairement concernés par l'écologie. Alors, pourquoi entend-on souvent le contraire? Pourquoi cette fameuse opposition entre fin du monde et fin du mois, présentée comme indépassable, et présentée aussi comme la raison d'une soi-disant impossibilité pour les habitants des quartiers populaires ou des zones peu aisées du monde rural à s'intéresser à l'écologie? De quoi témoigne le faible succès des écologistes dans ces zones lors des élections? Pourquoi les écologistes font-ils leur meilleur score dans les quartiers plutôt aisés? Comment le mot écologie résonne-t-il pour les personnes qui peuplent ces quartiers et ces lieux où vit une population aux ressources plutôt modestes? Pourquoi certaines d'entre elles perçoivent-elles l'écologie comme un concept bourgeois? Comment alors faire naître une écologie populaire? Voilà Melchior, quelques questions pour alimenter notre réflexion pendant une heure.
Et on va en discuter avec nos trois invités qui nous accompagnent dans cette première partie.
Oui, alors elles sont deux pour l'instant à être arrivées. Comme on ne se connaît pas bien et qu'elles viennent de s'installer, je ne sais même pas qui est là. Je pense que c'est Bastois Souamadoun qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultante en RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises, et également journaliste. Et puis vous vous définissez comme une militante pour l'écologie populaire, sociale, solidaire et décoloniale. Vous nous direz qu'est-ce que vous voulez dire par ces mots-là. Vous vivez vous-même, je crois, en quartier populaire, mais vous connaissez aussi très bien une autre réalité qui est celle des départements d'outre-mer, puisque vous êtes originaire de Mayotte.
C'est exactement ça.
Alors, il va falloir que vous vous approchiez du micro pour qu'on vous entende bien. Je salue aussi Fanny Hugues. Bonjour.
Bonjour.
Alors avec vous, on va complètement dans un autre monde, d'autres périphéries, on pourrait dire, rurales, celle-là, puisque vous réalisez actuellement une thèse de sociologie sur les modes de vie fondés sur des pratiques de débrouille de 40 personnes qui vivent avec de faibles revenus dans 6 départements ruraux, un peu partout en France. Vous étudiez leur trajectoire sociale et résidentielle, la politisation ou pas de leur mode de vie, et puis aussi, ce dont on va parler plus aujourd'hui, leur rapport à l'écologie. Et puis j'accueille enfin Lorraine Lolo qui vient de s'installer. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice et directrice générale de l'association Cité des Chances qui s'est fixée pour mission de démocratiser l'engagement citoyen des jeunes des banlieues et des quartiers populaires dont vous êtes vous-même issue puisque vous avez grandi à Clichy-sous-Bois. Vous avez choisi d'étudier les sciences politiques à Paris Nanterre et puis actuellement vous êtes en Master 1 Intervention et Développement Social au Conservatoire National des Arts et Métiers si je ne dis pas de bêtises.
C'est bien ça.
Et puis j'ajoute que vous êtes élue municipale à Fos dans le Val-d'Oise avec une délégation à l'environnement et à la citoyenneté.
Voilà pour les présentations. Merci à toutes les trois d'être avec nous jusqu'à 10h dans Je pense donc j'agis. On ne change pas nos habitudes. Anne, on va commencer avec notre chronique Tout est lié. Et nous accueillons ce matin Adrien Louandre.
Bonjour Adrien.
Bonjour Anne, bonjour Melchior.
Alors le thème de notre émission du jour vous a inspiré une réflexion autour des mots, du langage.
Oui, c'est cela. Pauvreté, misère, écologie. La pauvreté, donc du coup en termes de définition, serait d'avoir moins que les autres. La misère, elle, serait définie dans le Petit Robert comme, je cite, une situation de détresse, un malheur extrême. L'écologie, puisque bon, je le répète à chaque chronique, donc maintenant vous le savez, vient de oikos, le foyer, la famille. Il y a donc dans tout cela une pauvreté dont on parle peu et qui pourtant sous-tend toutes les autres, celle du langage. La catastrophe écologique et sociale en cours n'est pas juste un problème de pauvreté où l'on aurait simplement moins que les autres. Moins de pouvoir d'achat pour s'acheter un iPhone 13, un ou deux amis en moins, une perspective professionnelle qui ne nous conviendrait pas complètement, une capacité de communication avec les autres qui ne défaillerait que parfois. Non, il s'agit bien d'une misère, souvent un malheur extrême issu d'un système qui va dans le mur et ne donne comme solution que le vide de la consommation. Comme le disait le philosophe tchèque Jan Potočka, nous avons voulu la liberté, nous avons eu la consommation. Le capitalisme ne produit pas simplement des pauvres par essence, il génère aussi une misère existentielle. Pour le romancier Léon Blois, cette fois, la misère est le manque du nécessaire, la pauvreté est le manque du superflu, la misère, c'est la pauvreté sans espérance. D'autant que, bon, soyons clairs, à ce rythme-là, hein, dans 20 ans, le Vatican sera déplacé de Rome à cause du manque d'eau, la mauvaise gestion étant exacerbée dans la capitale italienne. Un paysan se suicide tous les jours en France, 9 millions de personnes vivent de l'aide alimentaire dans la 6e puissance économique du monde, tout va bien. La guerre redevient actuelle, d'où découlera très probablement une famine en Égypte cet été. Alors tout ça, bien sûr, hein, soit on le sait, soit on peut s'en douter, et il est déjà bien complexe de bouger. Alors si en plus on n'utilise pas les bons mots...
Alors qu'est-ce que vous proposez ?
En plus d'arrêter Twitter, vous voulez dire ? Écoutez, bien des choses. Il est logique et bien plus reposant hein, pour l'humain de regarder une vidéo simplificatrice que de lire un long texte scientifique. Bon, moi le premier, hein, d'ailleurs je le confesse, j'ai pas lu les milliers de pages des rapports du GIEC. Mais le langage, la finesse de la langue de Prévert permet d'affiner la réflexion, de développer l'esprit critique. Mieux, le langage permet d'élever les consciences. En effet, quand M. Macron fustige une prétendue décroissance, comment diable peut-il passer sous silence le fait que nous n'avons jamais été autant en décroissance qu'aujourd'hui ? 60% de la vie en moins sur Terre en 40 ans, décroissance d'espérance, décroissance même dans le nombre de profs qui ne veulent plus servir l'école tellement ils ne la reconnaissent plus, décroissance des liens avec 6 millions de personnes en état de mort sociale dans ce pays, décroissance de la richesse de nos sols, décroissance de fraternité quand celle-ci devient parfois un délit quand il s'agit de migrants. Bon, on a compris ou je continue encore ? Eh bien non, bah non. Pour lui, la décroissance serait le projet écologique. Bon, ne se trompons pas, hein, il ne s'agit pas dans mon propos de tacler un parti spécifique ou d'en promouvoir un autre, mais bien de rentrer dans une bataille des mots, une bataille des idées. Ce sont les mots qui font qui font les choses, qui font le monde. Bon, quand Monsieur Jacob, pour avoir de l'audience, déclare sur France Inter qu'un autre projet que le projet libéral serait un chaos, on se demande quand même ce qu'il lui faudrait. Quand le PIB valorise les destructions écologiques, voire la prostitution des mineurs dans certains pays, mais pas l'infirmière qui prendra sur son temps pour réconforter un malade, il n'y a pas à chercher plus loin la raison de tant de nos mots MAUX. Alors s'il vous plaît, ouvrons les dictionnaires, changeons nos mots pour changer les cœurs et les esprits, pour sortir de cette misère qui nous fait oublier que résidents de la planète Terre, nous sommes tous membres d'une même famille, d'une même communauté de destin avec tout le vivant. Mal nommer les choses, juger Camus, c'est ajouter du malheur au monde, ne pas les nommer, c'est nier notre humanité. Au contraire, pour vous, pour vos enfants, vivons notre humanité pleinement, disons notre humanité entièrement et correctement.
Eh bien, merci Adrien Louandre pour cette chronique. Merci. Tout est lié. À réentendre sur rcf.fr et dans la prochaine émission dédiée à l'écologie, ce sera le jeudi 2 juin, on retrouvera François Mandil pour cette chronique. Voilà, ça nous donne matière à penser, à réfléchir, Anne.
Bah oui, on pourrait faire un premier tour de micro pour vous demander aux unes et aux autres, qu'est-ce qui vous a accroché dans ce que vient de dire Adrien ? Comment ça résonne pour vous au regard de la question qu'on se pose aujourd'hui ? Peut-être, Bastua Swamadoun pour commencer ?
Oui, bien sûr. Alors moi, il y a juste une chose qui m'a marquée dans ce qu'il vient de dire, c'est le rapport aux mots et le fait que souvent on ne lit pas les rapports scientifiques, on ne lit pas les rapports du GIEC et il l'a confessé, lui non plus ne l'a pas lu. Et je confesserai que j'ai pas lu toutes les pages, j'ai lu juste la synthèse. Et en fait, moi, je trouve que peut-être c'est l'un des dangers dans lesquels on tombe et qui nous poussent à reparler, à croire en tout cas qu'il y a une opposition entre les quartiers populaires, la ruralité et l'écologie, c'est qu'on a tendance à considérer que justement agir pour l'écologie, c'est lire le rapport du GIEC, alors que pour ma part, je considère que ce n'est, enfin, c'est une manière de se sensibiliser, mais ce n'est pas une solution. Et le fait de trop souvent mettre en avant justement le rapport du GIEC, les rapports scientifiques et les lectures scientifiques ont tendance à intimider et à éloigner certaines personnes de l'écologie, ce qui est dangereux.
Parce qu'on peut se dire, bah, je ne suis pas capable de lire ça, enfin, où qu'on habite d'ailleurs, hein, que ce soit en quartier populaire ou ailleurs.
Oui, exactement. Parce que, comme je vous le disais, et comme il l'a dit d'ailleurs dans la chronique, même nous ne lisons pas les rapports du GIEC jusqu'au bout qui font des milliers de pages et qui sont trop compliqués pour nos faibles connaissances.
Alors vous nous direz comment on fait si on ne lit pas les rapports du GIEC. Lorraine Lolo, comment vous réagissez à cette chronique? Qu'est-ce qui a accroché votre oreille?
Alors, évidemment, c'est tout ce qui est le rapport homo. Moi, ce que je constate, notamment dans les quartiers populaires, c'est que écologie, c'est un peu je dirais pas un gros mot, mais en tout cas c'est connoté généralement assez bourgeois, alors que finalement quand on parle de l'écologie d'une autre manière, de la manière dont eux et elles le perçoivent, là tout de suite ça entre beaucoup plus en résonance avec ce que eux constatent de l'écologie. Moi je préfère dire environnement d'ailleurs, parce que généralement ça leur parle beaucoup plus. Après c'est vrai que les mots sont importants parce que ça travaille notre imaginaire et ça décrit le monde et ça nous permet d'agir sur celui-ci, mais c'est avant tout l'action qui compte et pas forcément l'action individuelle mais également l'action collective et en l'occurrence l'action politique.
Fanny Hugues, pour vous donc qui travaillez plutôt en zone rurale, vous vous consonnez avec ce qui vient d'être dit ?
Oui, complètement. Et puis je rebondis aussi sur cette histoire des mots où pour les personnes que j'ai rencontrées, l'écologie passe par la pratique et non pas par un discours. Et justement, souvent sont critiquées les personnes qui ne remettraient pas, on va dire, radicalement en cause leur mode de vie ou qui se contenteraient de faire une, ce qu'on pourrait appeler une écologie de bonne conscience. Alors que pour les personnes rencontrées, cela passe par, en fait, un mode de vie, du coup, ce que j'appelle débrouille, mais qui, en fait, passe par des pratiques très concrètes qui vont être voilà de récupérer, de réparer, de fabriquer, d'autoproduire, etc.
Alors, on fait cette émission dans le contexte, dans un contexte assez électoral. Après l'élection présidentielle, on se projette petit à petit vers les législatives. Si on fait un point sur la sociologie des résultats de l'élection présidentielle, à grands traits, hein, on peut dire que au premier tour, les banlieues ont massivement voté Mélenchon, même jusqu'à 70%, je crois, en certains endroits en Seine-Saint-Denis, en tout cas en tête partout, avec un taux de participation un peu plus élevé, en tout cas, que ce qu'on pouvait imaginer au premier tour. Et puis, les zones rurales éloignées des grandes villes ont opté plutôt pour Marine Le Pen. Vous me corrigez, Fanny Hugues, si je dis une bêtise. Les écologistes, comme habituellement, font leur meilleur score dans les grandes villes, chez une population plutôt aisée. Alors, pour vous, cette sociologie rapide, hein, à grands traits, qu'est-ce qu'elle dit de la préoccupation écologique, de la manière dont elle se pose dans les quartiers que vous connaissez, qu'ils soient en zone rurale ou urbaine, Fanny Hugues?
Alors, pour recontextualiser, enfin, il y a eu effectivement des votes pour Marine Le Pen dans les zones éloignées des centres-villes, mais il y a quand même plusieurs zones rurales qui sont hétérogènes et qu'il faut pas juste regrouper dans une juste sous le vote de Marine Le Pen. Mais par exemple, moi, je suis allée en Moselle. C'est aussi un endroit qui a été étudié par le sociologue Benoît Coquart et qui en fait explique lui, et c'est quelque chose qui rentre en résonance avec ma thèse pour les personnes qui ont voté pour Marine Le Pen, c'est que aujourd'hui se placer du côté des gens bien, c'est aussi voter de droite, voire voter extrême droite, et ça permet en fait de se distinguer de personnes qu'on pourrait appeler assistées ou cassos quand on veut se distinguer de ces personnes-là et assurer une certaine respectabilité. Et il y a eu aussi pour d'autres personnes un rejet assez franc de Emmanuel Macron, avec un peu ce slogan tout sauf Macron qui a pu faire que certaines personnes, en tout cas au second tour de ma thèse, se sont tournées vers Marine Le Pen.
Pour ce qui est des quartiers populaires, Bastia Swamadoun et Lorraine Lolo, quel regard vous portez sur ces résultats au regard de l'engagement écologique ou pas dans ces quartiers-là? Lorraine Lolo.
Alors, en fait, nous, c'est assez particulier parce que nous, on a fait une tournée des quartiers populaires en Île-de-France. On a fait 16 villes, en passant de Bobigny à Sarcelles, à Fos, enfin voilà, on a fait pas mal de villes pour partir à la rencontre des jeunes et les encourager, déjà d'une part à voter, mais aussi surtout s'exprimer. On a fait notamment un podcast qui est disponible sur nos réseaux sociaux. Et en fait, sur la question écologique, ce qu'on nous disait, c'est que effectivement c'est une préoccupation, mais c'était pas la première des préoccupations qui leur venaient en tête quand on les interrogeait sur ce qu'ils pensaient de l'offre politique. Il y avait pas mal de la question justement des discriminations qui entraient en jeu, où voilà, la majorité présidentielle et plus à droite s'était vue, on a eu des mots très très forts, hein. On avait Valérie Pécresse qui nous parlait de ressortir le Karcher, par exemple. Donc voilà, c'est des choses qui ont beaucoup marqué et qui ont joué dans, on n'a pas envie d'être à nouveau discriminé de la même façon. Après, il y a également des jeunes qui sont un peu plus sensibilisés aux questions environnementales, qui, bien sûr, pour lesquels le vote Mélenchon a aussi joué. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on a pu constater sur le terrain.
Peut-être juste d'un mot, quand vous dites nous, c'est votre association Cité des Chances ?
Oui, c'est ça, c'est les membres de Cité des Chances, avec une action qui s'appelle La Cité à voter.
Et juste pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Cité des Chances, en résumé, qu'est-ce que c'est ?
En résumé, c'est une asso qui existe depuis 4 ans et dont l'objectif est de vulgariser la politique aux jeunes de banlieue et de leur donner envie de s'engager, de prendre confiance en leurs capacités et de porter leur propre voix pour, on espère, créer une nouvelle génération politisée et pourquoi pas de nouveaux élus et nouvelles élus qui viendraient de quartiers populaires.
Bastia Swamadoun, sur la même question, votre regard sur les résultats de cette élection dans les quartiers ?
Oui, alors moi j'ai en fait deux réflexions. Enfin, déjà je parlerai de deux territoires que je connais, qui sont les quartiers populaires et les DROM, mais j'ai juste deux réflexions. D'une part, pour rebondir à ce que vient de dire Lorraine, c'est que oui, on peut avoir comme première réflexion, et l'écologie ça ne me concerne pas, mais comme on l'a rappelé un petit peu dans notre première intervention, ce n'est pas l'écologie qui ne concerne pas ou n'intéresse pas, c'est la manière dont est racontée l'écologie et l'approche qui est présentée de l'écologie. Et donc pour moi, ça dit plus des choses des partis eux-mêmes que des personnes des quartiers populaires ou des DROM. Parce que je considère en tout cas que ces résultats sociologiques disent à qui s'adressent ces partis. Et parce que quand on s'adresse aux personnes, elles se mobilisent et elles réagissent. Typiquement, vous l'avez dit tout à l'heure, les quartiers populaires se sont mobilisés pour Mélenchon, mais parce que Mélenchon s'est adressé aux quartiers populaires, s'est déplacé pour leur parler, et leur a parlé et de leur vécu, et de leurs problématiques, et avec leurs propres termes. Si, selon moi en tout cas, si pour d'autres partis plus écologistes, ça ne marche pas, c'est parce que ces partis ne cherchent pas spécialement à discuter en fait avec des personnes des quartiers populaires ou avec des personnes des DROM, et ça dit quelque chose de ces parties-là et non pas des populations dont on parle.
Pourquoi ils ne le cherchent pas justement ? Quelle est votre analyse là-dessus ?
Mon analyse, c'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'on a tendance à considérer que l'écologie, c'est lié à une population plus bourgeoise ou plus aisée, et donc ils se diront forcément, pour que ça soit compris, un peu comme ce qu'on a dit aussi en début d'émission, il faut avoir lu le rapport du GIEC. Est-ce que la personne qui est au fond de sa campagne ou qui est au fond des quartiers populaires va lire le rapport du GIEC ? Pas forcément. Nous-mêmes, on va pas lire le rapport du GIEC, mais parce que l'écologie, c'est un peu aussi un révélateur de nos propres préjugés, la personne se dira, une personne qui a fait un bac plus 5, il y a plus de chances qu'elle aille lire le rapport du GIEC. Donc si je veux une personne qui comprend mon langage, il faut que j'aille vers ce type de personnes-là. Et c'est, selon moi en tout cas, ces partis eux-mêmes qui s'enferment dans leurs propres préjugés.
Lorraine Lolo ?
Oui, moi je suis totalement d'accord avec ça. Pour moi, il y a une volonté politique ou non de s'adresser à tel ou tel électorat, mais j'ajouterais aussi le tout ce qui concerne la représentation en fait. C'est le fait aussi d'avoir des personnes en fait qui nous ressemblent pas, qui ne vivent pas dans nos quartiers, etc. Moi dans les quartiers populaires, je vois très peu de groupes locaux écolos, etc. Et en fait, finalement, ça se ressent aussi dans dans les voix. Et je trouve que le fait d'avoir des personnes qui nous ressemblent, qui parlent un langage qu'on connaît, qui vivent nos réalités, et du coup qui savent nous parler parce qu'ils savent ce qu'on vit, bah du coup ça joue énormément. Et ça, je trouve que les partis, enfin notamment Europe Écologie Les Verts, enfin tout le pôle écolo qu'on appelle ça, devrait en tout cas essayer de s'adresser plus à ces partis-là et faire émerger en fait des figures qui viennent de ces quartiers tout simplement. Et je constate en tout cas que c'est un effort qui est fait, mais quand je vois notamment les candidatures de la NUP ou la NUPES, la Nouvelle Écologie,
la Nouvelle Union Populaire Écologique
et Sociale, et ben en fait j'ai l'impression que cet effort en tout cas n'est pas encore assez suffisant.
Et vous êtes là pour dire on est là quoi?
Exactement, on est là et en fait on a plein de choses à dire, plein de choses à faire, plein de choses à porter, y compris à l'Assemblée nationale. Et enfin, je dirais pas on attend, parce qu'en fait dans tous les cas, même si on nous attend pas, on arrive.
Fanny Hugues.
Oui, je rebondis sur ce qui est dit, c'est que pour certaines personnes que j'ai rencontrées, effectivement, Europe Écologie Les Verts est considéré comme un parti assez élitiste et surtout déconnecté de la réalité rurale et lié à des politiques publiques qui seraient imposées en ruralité, notamment souvent des grands projets inutiles, enfin ce qui est appelé comme ça. Et plus généralement, l'écologie aussi telle qu'elle est perçue et plus globalement, en fait, elle est définie par notamment les membres des classes populaires qui sont souvent les personnes qui sont dans des décideurs publics sur fonds de croissance verte, d'innovation technologique, etc., qui seraient à même en fait de faire évoluer le monde de la bonne manière, mais en fait sont invisibilisés à côté d'autres pratiques qui en fait deviennent même des modes de vie, comme je disais, comme le fait voilà de récupérer, de fabriquer des objets à partir d'anciens, de réparer, etc. Et en fait les classes populaires ne sont pas fermées à certaines injonctions qu'on dirait éco-citoyennes, mais elles ne cherchent pas à se distinguer en fait, comme ça pourrait être le cas de classes supérieures à travers ces actes-là, et elle ne passe aussi pas que par ça, on va dire, pour faire de l'écologie et pour adopter en fait des gestes écologiques qui ne sont pas reconnus comme tels par elle-même, mais pas non plus par la population plus globale et notamment les classes supérieures.
Ce que vous êtes en train de nous dire aussi à travers ça, c'est que en fait il y a une histoire de d'incapacité peut-être d'une partie de la population à reconnaître ce qui se vit déjà en termes d'écologie chez les personnes que vous rencontrez.
Oui, effectivement, et on va dire qu'une partie de mon travail est de chercher à visibiliser en fait ces modes de vie-là, et tout en prenant le point de vue et le parti des gens, enfin en essayant de comprendre elles et eux comment est-ce que elles appréhendent les questions environnementales.
Venez nous dire si vous êtes d'accord ou non avec ce que nous disent nos invités depuis le début de cette émission, et dites-nous si pour vous c'est vrai l'écologie c'est une affaire de riches ou de bobos. Et puis est-ce qu'on peut répondre en même temps aux préoccupations de fin du mois et fin du monde? Venez participer au 04 72 38 20 23 par mail également à direct@rcf.fr. 9h25 sur RCF, on continue toujours avec nos trois invités, Bastua Swamadoun, Lorraine Lolo et Fanny Hugues, à répondre à cette idée reçue, Anne, dire que l'écologie c'est un truc de riche. On continue.
Et on va accueillir, je crois, un auditeur.
Ah oui, alors non, oui, c'est un message. C'est pas un auditeur, mais c'est un auditeur, Jean-Jacques, qui nous a envoyé un message. L'écologie, c'est un truc de riche. Pour lui, c'est une conviction en ce sens que ce sont eux qui polluent le plus, beaucoup plus que les pauvres, par leur manière de consommer, leurs déplacements, voyages touristiques en contrées lointaines, leurs grosses voitures énergivores et leurs piscines consommatrices d'eau, qui est de plus en plus rare, et la pratique d'un sport comme le golf, au gazon éternellement vert. Ça, je trouve ça intéressant, ce témoignage de Jean-Jacques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Fanny Hugues?
Je suis d'accord. Enfin, effectivement, c'est des les pratiques que j'étudie sont économes à la fois financièrement, mais du coup aussi en termes écologiques, parce qu'elles vont se fonder sur peu de ressources naturelles et énergétiques, par exemple.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets, justement? C'est le moment peut-être de nous dire comment ces personnes, il y en a 40 un peu partout en France que vous étudiez, comment elles vivent ces personnes?
Ouais, c'est un peu comme je l'évoquais tout à l'heure, ça va être des personnes qui vont beaucoup récupérer, qui vont beaucoup stocker aussi parce qu'elles ont de l'espace pour pouvoir stocker soit des objets récupérés, soit des outils, soit des choses autoproduites. Donc parce qu'elles vont par exemple faire un potager, se déplacer à vélo ou en covoiturage notamment parce que ou en stop parce qu'elles n'ont pas de voiture, elles vont acheter d'occasion, elles vont avoir des toilettes sèches, elles vont fabriquer certains objets. Là, je dis des pratiques assez globales, mais tout le monde, enfin toutes les pratiques ne sont pas partagées par tout le monde, mais voilà un panorama déjà.
Et en vivant de cette manière-là, est-ce que ces personnes-là, enfin, est-ce que pour elles c'est une démarche qui se veut écologique ou est-ce que c'est pas de cet ordre-là en fait ? C'est juste qu'elles vivent comme ça et qu'il se trouve que c'est vertueux écologiquement parlant ?
Exactement. Quand j'ai demandé aux personnes si elles se disaient écolo, ce qu'elles pensaient de l'écologie, ça tombait souvent comme un cheveu sur la soupe et il y avait un silence qui était marqué après et avec des personnes qui me disaient mais non, pas du tout, etc. Les termes qui vont plutôt être retrouvés, ça va être le fait d'éviter de gaspiller, de donner une seconde vie. Donc il y a quelques personnes qui vont évoquer faire le tri sélectif avec sérieux, ne pas jeter de déchets dans la nature. Mais on va dire que le terme écolo est souvent assimilé comme à une étiquette auquel on ne veut pas se raccrocher. Mais cela n'empêche pas voilà que les personnes en fait ont des pratiques économes et souvent quand aussi elles évoquent les enjeux environnementaux, c'est la proximité en fait des dégradations environnementales qui va être mentionnée et des pollutions qu'elles vont pouvoir observer ou vivre comme la pollution des voitures autour d'elles, les pesticides dans le champ à côté, l'usine qui les apothèses potentiellement blessés ou qui a rendu des proches malades. Et pour certaines personnes, se dire écolo, ce serait aussi, en fait, c'est aussi un synonyme d'autonomie. Et certaines personnes me disent, mais en fait, je peux pas me dire écolo si j'utilise la voiture, si mon logement est mal isolé. Et donc, ce serait des personnes qui rechercheraient plus à autoproduire leur alimentation, à ne pas avoir recours à la voiture, etc. Et en fait, les personnes ont aussi conscience que leur action individuelle est modeste. En fait, ce qu'on pourrait appeler même les éco-gestes qui sont dans une écologie plus bourgeoise, valorisée, qui consisterait en l'écologie, sont en fait là, relégués au second plan, en disant mais de toute façon, je n'ai pas vraiment de prise sur la surproduction mondiale et sur la croissance économique et les industries.
Et quand ils disent, comme vous le disiez, je peux pas me dire écolo parce que je suis obligée de prendre ma voiture ou parce que mon logement est pas isolé, là, il y a clairement une attente vis-à-vis de la puissance publique sur ces questions-là ?
C'est possible, oui. C'est possible, mais souvent, il y a aussi certaines personnes qui vont, par exemple, l'isolation à 1 euro qui a été, du coup, c'est le fait qu'on puisse isoler sa maison pour 1 euro. Donc ça, c'est les pouvoirs publics qui ont mis ça en place. Il y a la question de avec quel matériau est-ce qu'on fait ça, en fait, et comment est-ce que les gens qui le font sont payés, et notamment cette question des matériaux avec les personnes qui disent que si c'est pour le faire avec des matériaux qui ne sont pas écologiques, à quoi bon, quoi.
Bon, à vous écouter, on entend que le degré de conscience écologique, il est quand même bien là, même s'il s'exprime pas de la manière classique dont on l'entend peut-être d'habitude. Dans un instant, on va continuer d'évoquer une chose qu'on évoquait en début d'émission, les raisons pour lesquelles, de fait, les personnes qui vivent dans ces zones-là, que ce soit les quartiers populaires ou en zone rurale, vous l'évoquiez déjà à l'instant, Fanny, sont écolos parce qu'elles ont un mode de vie qui est moins polluant et puis elles sont aussi les premières à subir le changement. On y revient, Melchior.
Oui, après une petite pause. On accueillera Corinne également dans quelques minutes au 04 72 38 20 23. On attend vos réactions, vos témoignages également par mail à l'adresse direct@rcf.fr. À tout de suite. C'était Rachel Chinouriri sur RCF pour vous accompagner en ce mardi matin.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléau.
Et on se demande ce matin pourquoi l'écologie a autant de mal à trouver sa place chez les plus modestes de nos concitoyens, que ce soit dans les quartiers populaires ou même en zone rurale. On en discute avec trois invités qui nous accompagnent. Bastua Swamadoun, vous êtes consultante en RSE, également journaliste. Lorraine Lolo, vous êtes la cofondatrice et directrice générale de l'association Cité des Chances. Et Fanny Hugues, vous étudiez les trajectoires sociales, résidentielles, la politisation au nom de leur mode de vie, leur rapport à l'écologie. Ça fait beaucoup de choses à dire.
Voilà, en de 40 zone rurale, personnes. On aurait pu résumer un peu la présentation.
Exactement. On continue.
Alors, il y a un aspect que je voudrais qu'on évoque, qu'on a simplement soulevé de manière rapide depuis le début de l'émission, c'est le fait que les personnes dont on parle, que ce soit en quartier populaire ou en zone rurale, sont les premières victimes de la crise écologique. Alors, Fanny Hugues, pour la zone rurale, vous en avez un peu parlé. Lorraine Lolo, peut-être, dans les quartiers populaires, de manière concrète, finalement, quel est l'impact de la crise écologique? Est-ce que vous auriez quelques exemples? Et Bastua Swamadoun aussi, hein, vous pouvez alterner.
Alors, moi, au niveau des exemples, il y a notamment le fait que les terrains de sport dans les quartiers populaires, en fait, sont situés très souvent juste à côté, en fait, du périph. Ce qui fait que, on a notamment des jeunes qui pratiquent un sport et qui respirent, en fait, tout ce qui vient de l'autoroute, etc., et de l'air très pollué, en réalité. Et c'est pareil pour les habitations qui sont à proximité. Et d'ailleurs, on a des jeunes qui se mobilisent contre ça, en tout cas pour dénoncer ça et essayer de trouver de potentielles solutions parce qu'on a tendance à dire, par exemple, que dans les quartiers populaires, on serait forcément pour la voiture ou que sais-je. Non, en fait, il y a des gens qui se rendent bien compte, en fait, de l'impact qu'a la voiture sur leur air, l'air que leurs enfants ou que eux-mêmes respirent et plus tard, mais en fait, potentiellement sur leur santé, etc. Donc voilà, pour un petit exemple, je sais pas si Bastia en a un autre.
Oui, alors moi, en fait, je voulais d'abord revenir juste sur le commentaire de votre éditeur tout à l'heure sur le fait que l'écologie, c'était justement une chose de riche. Alors, pour moi, c'est oui et non. Alors, oui, parce que oui, les personnes les plus aisées sont les personnes qui détruisent le plus notre planète et qui ont le plus d'impact négatif sur notre environnement. Mais non, parce que aussi, ça dépend de ce dont on parle. Si on parle, par exemple, de biodiversité, et qu'on parle, je sais pas, par exemple de nos sachets, enfin je ne sais quoi, en un sens on n'a pas besoin spécialement d'être riche pour avoir un impact négatif sur la biodiversité. Donc d'une manière ou d'une autre, on contribue par nos modes de fonctionnement, par nos modes de production et par nos modes de consommation à détruire notre planète collectivement, mais certaines personnes y contribuent beaucoup plus que d'autres. Et donc, moi, je tiens quand même aussi, je pense qu'il faut pointer du doigt les vrais responsables, mais il ne faut pas non plus nous-mêmes nous déresponsabiliser de nos actions et de l'impact de nos actions, aussi petites soient-elles, parce que c'est nécessaire d'en prendre conscience.
Peut-être que ça dit aussi que, quelque part, on est tous dans le même bateau, qu'il y a une dimension collective, et cette dimension-là, elle peut peut-être être aidante pour prendre en charge ces questions-là.
Exactement, exactement. Et ça rebondit aussi justement à votre question sur les conséquences pour les personnes des quartiers populaires, les personnes les plus vulnérables ou les personnes des DROM. Alors oui, je vais prendre du coup quelques exemples, notamment par exemple pour les DROM, l'exemple de Mayotte d'où je viens de Mayotte, ou l'exemple de Lac Guadeloupe. Et ce que je remarque, c'est que généralement on est une jonction des deux. Les personnes les plus vulnérables sont celles qui ont le plus besoin aussi de la solidarité collective. Et de manière générale, pour répondre à la crise environnementale, on a besoin besoin de cette solidarité pour continuer à fonctionner. Mais justement, parce qu'elles sont loin de la politique, où elles se sentent pas concernées, ou un peu comme ce que disait Fanny tout à l'heure, elles pourraient se dire, eh ben oui, je peux peut-être économe ou moins gaspiller dans mon mode de fonctionnement, mais au fond, je n'ai pas de réel impact dans les modes de production. Eh ben, cette dépolitisation, je pense, fait qu'on ne se rend pas compte que, pour moi, en tout cas, moi, j'utilise pas tant écologie, je considère que c'est une condition de vie. C'est une condition pour pouvoir exister sur cette planète. Et tout comme on a besoin du social et on a besoin des choses qui nous protègent sur le plan social, on a besoin de notre environnement qui nous permet d'exister. Et donc, je trouve qu'écologie, déjà, c'est trop distancier la chose. Et pour revenir, du coup, aux exemples, typiquement, à Mayotte, c'est une île qui est en train de couler actuellement. Du coup, si l'île coule, c'est collectivement, on doit se poser la question de qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour les populations qui vivent sur cette île, si elles-mêmes, elles sont en train de couler. Ou la Guadeloupe, qui maintenant a du mal à avoir accès à l'eau potable. Et là, typiquement, c'est rebelote, c'est que les collectivités, c'est les pouvoirs publics, mais c'est collectivement qu'on doit se poser cette question de qu'est-ce qu'on doit y faire. Mais en parallèle de ça, les personnes qui subissent les effets, les personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable actuellement, c'est les Guadeloupéens. Les personnes, typiquement, comme ce que disait Lorraine tout à l'heure, qui peuvent avoir dans leur bâtiment une qualité de l'air intérieur dégradée, c'est les personnes des quartiers populaires parce qu'elles n'ont pas les moyens de faire les travaux nécessaires. Donc, en fait, dans tous les cas, on subit ces conséquences, mais certaines personnes, parce qu'en plus, on vit dans un système, parce que c'est collectif la réponse à la crise environnementale et qu'elles n'ont pas la possibilité d'avoir leur voix qui est entendue, elles se retrouvent complètement mises à part, que ça soit sur les effets qu'elles sont en train de vivre actuellement ou les réponses, parce que je pense peut-être Fanny le dira, mais les personnes des quartiers populaires, les personnes de la ruralité, les personnes des DOM ont les réponses à ces problématiques. Elles n'ont juste pas le micro pour le dire.
Alors avant de venir aux réponses, Fanny, en zone rurale, est-ce qu'il y a d'autres exemples que vous pourriez ajouter ?
Moi, je voulais bien rebondir sur ce que disait Bastia, sur le fait que il y a besoin de la planète pour continuer à vivre. Ce qui peut les pratiques des personnes que je rencontre sont fondées sur un travail de subsistance, c'est-à-dire un travail qui va permettre de continuer en fait à vivre, et notamment l'autoproduction, donc faire son potager ou aller glaner dans les champs des aliments qui n'ont pas été récoltés par les propriétaires. Et en fait, quand je disais aussi que les personnes ne se disaient pas écolo, par contre, une autre expression qui ressort, c'est celle de bon sens. Et en fait, souvent, les gens ils me disent « mais c'est logique, c'est du bon sens ». Et donc, il a fallu que je creuse qu'est-ce qu'on entendait par quelque chose d'aussi logique que le bon sens. Et en fait, d'un côté, ça va être le fait d'adopter certaines pratiques pour faire des économies d'argent et de ressources en même temps. Et d'un autre côté, pour rebondir sur ce qui était dit, ça va être le fait, en fait, ça veut dire prendre soin de la terre et la respecter. Il y a beaucoup cette notion de respect et du fait de respecter la terre qui ressort. Et ça va notamment passer par le fait de ne pas mettre de produits chimiques. Je demande aux gens « pourquoi est-ce que vous mettez pas de produits chimiques dans votre jardin, ça vous ferait gagner du temps ?» Voilà, enfin, cette question-là un peu. Et les personnes me disent « mais non, pourquoi en fait pourrir une terre qui nous nourrit en fait ?» Dans cette logique de réciprocité, parce qu'on autoproduit sa nourriture ou parce qu'on la glane, en tout cas parce qu'on a besoin de s'approvisionner dans la nature, pourquoi détruire la terre si on en a autant besoin ? Et en fait aussi, cette notion de bon sens est à replacer dans une continuité en fait des trajectoires de vie des personnes qui en fait ont grandi pour la moitié à la campagne, dans des milieux agricoles et ou ouvriers, et qui du coup avaient déjà ces pratiques-là dans leur enfance et en fait ont intériorisé ces modes de vie-là, de débrouille, qui reproduisent aujourd'hui et qui en fait semblent naturels quoi et logiques parce que intériorisés depuis l'enfance.
Corinne nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Corinne.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci pour l'émission. Et en fait, je suis très sensible à ce que vous dites, au respect de la nature. Et je ne sais pas d'où je le tiens, mais il me semble de plus en plus ancré en moi. Et c'est vrai que je ne sais pas si je suis bobo, parce que je ne suis pas dans les critères financiers, etc. Mais... moi, ce que j'ai appris ces derniers temps, c'est que dans écologie, il y a oikos, dans économie, il y a oikos, dans gynécologie, il y a oikos. Et ça, c'est un fil directeur, même si j'ai pas beaucoup d'argent, mais je suis très sensible à ce mot-là. Mais moi, j'ai ressenti une discrimination, surtout dans le regard de l'action sociale. Donc moi, je l'ai vécu dans les années 2005, peut-être que ça a changé. Mais Le regard, il faut avoir le frigidaire rempli de, bien sûr, de yaourt, de fromage blanc, de fromage. Il faut avoir les habits qui changent. Il faut avoir, etc., etc. Et l'action sociale, elle a comment la faire écologique. Voilà. Mmh.
Eh bien, écoutez, merci Corinne de nous avoir appelé ce matin dans Je pense donc j'agis pour apporter ce témoignage. Lorraine Lolo, peut-être une réaction sur ce qu'on a entendu de la part de Corinne. Lorraine ou Bastua, hein, c'est comme vous voulez.
Non, en fait, moi je suis tout à fait d'accord avec Corinne. Effectivement, en fait, ce qui nuit notamment à l'écologie, en fait, enfin tout simplement à notre planète, c'est aussi tout ce qui est poussé à la consommation. Donc en fait, je trouve que les classes dominantes, voire parfois même les classes dirigeantes, parce que on est encore dans ce système où la croissance est un idéal, etc., et qui peut être totalement décorrélé ou nocif pour la planète, on nous pousse à consommer neuf, notamment à consommer plus, vouloir acheter plus, etc. Et en fait, on promeut en fait ce mode de vie, et même à l'échelle planétaire, en fait, en tant que pays occidentaux, on promeut le fait d'avoir sa voiture, d'avoir telle ou telle marque, etc. Et ça, ça peut nuire collectivement à nos modes de vie. Et après, on s'étonne, pourquoi il y a des gens qui veulent venir en Occident notamment. C'est parce que aussi, avec tout ce qu'on appelle le soft power, on dit en fait que c'est ça la meilleure manière de vivre, etc. Et après, ça a des conséquences directes sur la vie, au sens la vie que se font les gens, mais aussi leur vie dans leur quartier et là où elles ont envie de se déplacer, où elles doivent se déplacer d'ailleurs quand leur île coule, en fait, tout simplement, par exemple. Donc voilà, moi en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec Corinne, et je vois tout à fait de quoi elle parle.
Ouais. On a Edith aussi qui est avec nous. Bonjour Edith.
Oui, bonjour.
Bonjour, on vous écoute.
Oui, bonjour. Oui, moi je voudrais vous dire que l'écologie, pour moi, ça n'a pas d'appartenance politique. Et je trouve qu'on fait beaucoup de récupération, et je trouve ça vraiment navrant, beaucoup de récupération à gauche. Je pense que l'écologie, c'est une histoire, ce n'est pas une histoire aussi de classe sociale. On peut tous être écologique au fond de l'âme sans appartenir à tel ou tel rang social. Moi, je suis qu'une petite retraitée, mais ça fait partie de ma vie quotidienne, et je trouve que c'est la base. Et je connais beaucoup de gens qui sont, peu importe leur situation, qui sont très respectueux de l'écologie. Et je pense que c'est les enfants qui sont les plus à même de vivre l'écologie, et que l'école a une grande importance à ce niveau-là. D'ailleurs, on le voit, les enfants changent, ils sont beaucoup plus écologiques que ma génération, et ça, c'est vraiment... c'est un modèle à prendre, je pense, et c'est la voie du futur, je pense. Ce sont nos enfants et les écoles. Voilà.
Merci Edith d'être venue à l'antenne avec ce petit témoignage. Bastua Swamadoun, Edith, pardon, souligne cette récupération politique. Ça, c'est pas la première à le dire, hein, d'ailleurs, à propos de l'écologie.
Oui, alors je vais en profiter en fait pour rebondir du coup aux deux interventions de vos auditrices. Alors pour rebondir à ce que disait Corinne, je suis désolée si je me trompe de prénom.
Mais non, c'est Corinne, c'est ça, bravo.
C'est
Corinne,
parfait. D'accord. Alors moi je trouve ça, j'ai trouvé son intervention vraiment intéressante. Enfin, le fait qu'elle dise qu'elle a ce rapport à la nature et cette volonté de respecter la nature, mais qu'elle ne se reconnaît pas dans Bobo, donc dans bourgeois écolo. Et je trouve que c'est vraiment... En vrai, je trouve ça juste un peu triste, parce que ça veut dire que dans sa manière de vivre et dans son mode de fonctionnement et dans son mode de production, elle est en accord avec la nature, elle est en accord pour être plus économe et moins impacter notre environnement. Mais parce qu'on nous apporte une certaine idéologie de l'écologie, il faut que tu te reconnaisses, parce que pour être écolo, tu dois acheter ton sac renouvelable, je ne sais quoi. Et qu'on pourrait se dire, moi, j'ai pas accès à telle marque, donc je ne suis pas écolo. Mais non, parce que justement, pour moi, en tout cas, l'écologie n'est pas une histoire de marque et n'est pas une histoire je sais pas, de limite de manière d'être qu'il faut cocher des cases pour se dire écolo. Et du coup, je trouve que c'est dommage et je pense en tout cas que l'émission que vous êtes en train de faire est aussi de dire ça, que être écolo n'est pas consommer autrement, n'est pas que consommer justement. Et que si son accord avec la nature veut justement dire qu'elle se coupe avec ce rapport à la consommation constante, pour moi, elle est beaucoup plus écolo qu'une personne qui remplacerait son tas de matériel par un autre plus conforme à X ou Y label. Et du coup, c'était juste sur ça. Et pour rebondir sur la deuxième intervention sur l'appartenance politique et l'appartenance de classe. Alors, après ça, c'est que mon point de vue à moi. Mais pour l'appartenance de classe, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je considère quand même malgré tout que les personnes qui sont les plus aisées impactent le plus. Et donc, de fait, ces personnes-là détruisent le plus la planète. Enfin, je sais pas, entre des personnes qui n'ont pas les moyens de prendre l'avion et qui ne voyagent quasiment pas, même si ce n'est pas une histoire de classe, selon le type de vacances que va choisir une personne, l'une va impacter plus négativement la planète que l'autre. Donc, la classe et l'argent et le financier jouent sur l'impact et la dégradation qu'on peut avoir sur la nature. Et pour l'appartenance politique, personnellement, étant de gauche, pour moi, l'écologie, je l'inscrirai à gauche. Mais en tout cas, et surtout, c'est que derrière, il n'y a pas que le terme écologie, c'est vraiment notre rapport à la nature, c'est notre rapport à la collectivité, c'est nos rapports entre nous. Et de fait, pour l'instant, en tout cas, la droite a tendance à aller vers la croissance, à aller vers un mode de production, même si, encore une fois, on change de label. Pour moi, c'est pas le changement de label ou le changement de mode de production seul qui répare la planète, c'est le fait que nous-mêmes, collectivement, on doit moins consommer. Et pour l'instant, je ne vois pas les partis de droite avoir ce type de discours. Donc pour moi, pour l'instant en tout cas, l'écologie s'inscrit encore à gauche.
Bon, il faudrait toute une émission pour en débattre et peut-être avec des personnes situées politiquement différemment. En fait, dans ce que vous dites, on entend beaucoup quand même la question du langage d'une part, et j'ai l'impression d'entendre qu'il faudrait presque plus employer le mot écologie, si je vous entends bien. Vous, quel est votre, là où vous êtes, quelle est votre manière de parler de tout ça, en fait, et vers quoi vous souhaiteriez qu'on aille en termes de discours de la part des partis politiques, ou alors peut-être est-ce que c'est d'autres acteurs qui doivent désormais promouvoir tout ça? Je ne sais pas qui veut répondre. Lorraine Lolo.
Moi, je dirais déjà aller à l'essentiel, aller au nécessaire. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'en parle. Et tout à l'heure, je disais justement que j'utilise plutôt le mot environnement que écologie, parce que voilà, on voit beaucoup plus facilement dans quel environnement on vit. Voilà, est-ce que par exemple dans les quartiers populaires, est-ce qu'on a assez d'espace vert? Est-ce que il y a des déchets par terre, etc. Ça, c'est quelque chose qui généralement parle plus, en tout cas dans ce que je consacre. Donc, j'en parlerai plus comme ça personnellement. Et en tout cas, en fait, le problème, c'est pas tant le mot écologie, c'est c'est tout l'imaginaire collectif un petit peu qui s'est formé autour de ces mots-là, qui font que des personnes se distancient du mot écologie, quand bien même leur mode de vie, leur mode de production, leur mode de consommation, etc., ou de non-consommation d'ailleurs, l'est totalement. Donc il faut, pour moi en tout cas, à la fois utiliser d'autres mots pour que les personnes comprennent de quoi on parle et puissent ne pas se sentir exclues de ça, mais à la fois en fait dire que redonner un autre sens à l'écologie dans l'imaginaire collectif pour que tout le monde se sente concerné par celle-ci et inclus dans celle-ci.
C'est possible?
Oui, c'est possible. En
d'avoir
tout cas,
un
moi,
langage
je suis éternelle...
commun vraiment là-dessus.
Moi, je suis une éternelle optimiste, donc oui, moi, je dirais que c'est tout à fait possible. Après, c'est un long travail, évidemment. Il va falloir justement travailler sur nos imaginaires, travailler sur les représentations, etc. Et ça passe aussi par les personnes qui ont plus accès à la parole publique, donc les pouvoirs publics, mais aussi nous en tant que militantes aujourd'hui et même sur les réseaux sociaux que j'utilise beaucoup personnellement. Donc c'est un travail collectif, mais on va y arriver.
Sur la même question, Fanny Hugues.
En fait, je suis complètement d'accord. C'est qu'aussi souvent on s'arrête à ce qui devrait être une sensibilisation aux questions écologiques. Donc par exemple, on va dans les quartiers populaires faire du porte-à-porte pour dire aux personnes ce qu'elles devraient faire et ce qu'elles font mal. Par exemple, prendre une douche plus courte ou ce genre de choses. En fait, il faudrait renverser la focale et déjà considérer les pratiques qui sont déjà faites, qui sont souvent invisibles et qui ne sont pas incluses dans la définition légitime de ce qu'est l'écologie. Et du coup aussi créer les conditions sociales pour que les personnes, notamment les personnes de classe populaire, participent à définir et à légitimer d'autres visions des enjeux environnementaux. Quand je parle de conditions sociales, c'est comment est-ce qu'on va promouvoir, par exemple, un événement si on veut que les personnes viennent, avec quel mot est-ce qu'on va parler, avec quel visuel est-ce qu'on va parler, quelles pratiques vont être mises en avant, et si en fait ce sont encore seulement les éco-gestes et certaines petites pratiques isolées, ou par exemple voilà le fait d'acheter tel ou tel produit. Ça ne va pas marcher puisque ce n'est pas la vision que les personnes ont des enjeux environnementaux et qu'en plus, c'est sans doute celle qui est la moins pertinente aussi.
Bastiaso Madoun.
Oui, alors moi je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Fanny et ce que dit Lorraine tout à l'heure. Moi j'utilise plus l'idée de conditions de vie et conditions d'existence parce que j'ai l'impression que ça enlève un peu et l'imaginaire et ça montre en fait l'essentiel, c'est vraiment nos conditions de vie et d'existence sur cette planète. Et un peu comme on dirait, est-ce que l'hôpital public qui est en train de s'effondrer, c'est une question de riches ou de pauvres? Non, l'hôpital public qui s'effondre, c'est une question de toute la société. Notre environnement et notre cadre de vie qui s'effondre, c'est une question qui touche tout le monde. Et du coup, je rejoins du coup un petit peu quand même, malgré tout, la dernière intervention qui disait qu'il y a une sorte d'appropriation. Et je dirais que oui, ça serait pour certaines élites qui mettent la main sur l'écologie, il faut leur reconnaître, qui ont été des lanceurs d'alerte au début, au moment où justement, pour pouvoir comprendre le danger à venir, il fallait avoir lu les rapports du GIEC et avoir lu les rapports scientifiques. Mais à l'heure actuelle, où c'est en train de se vulgariser, de se populariser, j'ai l'impression qu'il y a une certaine mainmise qui est mise sur l'écologie, qu'il faudrait lâcher. Et pour moi, enfin, je me dis que ce qu'il faudrait, c'est pas tant que nous on dise quels sont les termes à utiliser, parce que typiquement, moi, j'ai pas été en zone rurale, j'ai été dans les DOM, j'ai été dans les quartiers populaires, mais pas dans les zones rurales. Mais après, quand tu en parles, Fanny, je vois les points communs qu'on peut avoir justement avec les personnes de la ruralité. Et pour moi, c'est juste leur donner les micros, parce que ces personnes ont déjà des manières de vivre qui sont en accord avec l'écologie, ont leurs propres termes, ont leur propre réalité, et il faut juste qu'on les partage collectivement et construise la solution. Parce qu'il y a quand même, selon moi en tout cas, une chose à retenir, c'est que personne actuellement n'a la réponse parfaite et idéale à la crise environnementale. Et soit collectivement, on en discute, on prend les réalités de tout le monde, on prend les impacts à différents degrés pour chaque personne et ensemble on agit, soit parce que des personnes voudront de manière élitiste être la référence de l'écologie, etc. Mais c'est reproduire exactement les mêmes modes de fonctionnement qui nous ont menés à l'impasse actuelle. Et pour moi, enfin, l'enjeu, en plus de fait de changer la manière de vivre de 7 milliards de personnes, c'est aussi changer nos rapports à la domination, parce que ce rapport aux mots et ce rapport au langage, ce rapport aux marques et à la manière de consommer, c'est le rapport à la domination qu'on veut reproduire dans l'écologie et ce n'est pas possible.
On va accueillir Eric rapidement pour terminer cette première partie. Bonjour Eric.
Bonjour, bonjour.
On vous écoute.
Oui, mais je pense qu'elle a bien raison de ce qu'elle disait. Moi, je dirais d'une autre manière, oui, ça s'apprend déjà sur les bandes à l'école déjà, quoi. Parce que pour la première chose qu'on devrait apprendre, c'est planter, faire pousser, récolter et pouvoir conserver comme avant, ils faisaient avant. Vous voyez, c'est un rapport à la nature directement à l'école, quoi.
Donc l'éducation, ça passe par l'éducation. Hein. C'est ce qu'on entend dans votre témoignage. Eric, je pense que vous confirmez toutes les trois, peut-être Fanny.
Oui, ben c'est ce que je disais aussi, voilà, que les pratiques des personnes que j'ai observées s'inscrivent dans une continuité avec l'enfance. Donc voilà, qui avec des savoir-faire aussi qui ont été appris et intériorisés, donc voilà, de savoir cuisiner, fabriquer, produire, etc. Il n'empêche que pour rebondir aussi sur ce que Bastia disait sur les rapports de domination, il faut aussi se questionner sur qui fait chaque tâche et comment est réparti le travail, et notamment au sein d'un couple hétérosexuel. Donc c'est la question, voilà, pour être aussi là, enfin, s'il faut, parce que l'écologie, je crois, est une question aussi de rapport de pouvoir de manière intersectionnelle, c'est-à-dire entrecroisée. Et du coup, on pourrait aussi, voilà, là, ce serait une ouverture, mais se demander comment dépasser les rapports de genre aussi au sein de l'écologie.
Bon, vous ouvrez, enfin, depuis une heure, on ouvre des tas de questions. On a envie de faire 15 émissions avec vous. C'est toujours frustrant.
Ça nous donne des idées, au
ça
moins.
Ça nous donne des idées, puis on est sûr qu'on va les réinviter. Moi, j'aurais bien aimé aussi qu'on puisse creuser le pourquoi de votre engagement. Parce qu'on sent que derrière, il y a des parcours. Par exemple, Bastia et avez Lorraine qui avait grandi dans les quartiers populaires. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous engager en politique, en écologie? Enfin, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra faire dans de futures émissions avec vous, parce que voilà, ces parcours-là sont inspirants aussi pour que d'autres puissent se mettre en marche. On a le temps pour un petit mot de la fin en 15 secondes chacune.
Ah oui, alors 15 secondes, pas plus. Hein.
Allez, qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire avant qu'on se quitte en 15 secondes, Lorraine Lolo?
Alors, 15 secondes, c'est dur.
Bah, 10 alors.
Bah, en tout cas, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'il y a de l'espoir. C'est que chaque jour compte, par contre, et qu'il va falloir se bouger et prendre conscience de l'urgence. Et moi, ce que je dirais, là, on parlait des personnes de quartiers populaires, de la ruralité, des drômes, etc., les personnes les plus vulnérables. Notre force, c'est qu'on est beaucoup. Donc, il va falloir que, pour moi, en tout cas, on s'allie et qu'on porte notre intérêt, nos intérêts et ce qu'on a envie pour le futur.
On ne va pas avoir le temps de faire le tour.
Bah, écoutez, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à cette émission. Bastua Soamadoun, Lorraine Lolo pardon, et Fanny Hugues. Merci à toutes les trois pour ces nombreux témoignages. Merci Anne.
Et on leur dit à bientôt.
Ah bah oui,
parce
à bientôt.
On espère vous revoir à l'antenne bientôt. Merci
avec
beaucoup.
Avec grand plaisir. On va poursuivre dans un instant avec ces associations qui agissent en France pour conjuguer justice sociale et urgence écologique. Vous continuez de nous appeler pour témoigner au 04 72 38 20 23. On aura déjà Ingeborg et Marie. Ça cartonne ce matin. À tout de suite.